Ahimsa, non-violence.
Humilité.
Tolérance.
Respect.
Compassion.
Ahimsa, non-violence, le magazine de la vie positive. Chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue dans le magazine Ahimsa, non-violence. C'est le podcast numéro 17. Aujourd'hui, on se retrouve après un mois d'absence. Il n'y a pas eu d'émission il y a deux semaines dernières. Voilà, donc on continue après cette pause. Voilà, on va dire que c'était le mois de mai, c'était les vacances, il y a eu des ponts. Donc on se retrouve aujourd'hui dans ce numéro pour une émission spéciale autour de la médecine naturelle, de l'Ayurveda. On va parler médecine indienne, Ayurveda aujourd'hui. Et du coup, ça va être une émission... un petit peu autour de ça aussi au niveau musique, du coup j'ai calé pas mal de morceaux aux sonorités indiennes, on va dire. Voilà, il y a des mantras et puis d'autres petits titres comme ça, parce que la culture indienne finalement on l'a pas mal infusé dans la culture occidentale, surtout depuis les années 70. Voilà, avec l'arrivée de, il y a eu tout un, lors du mouvement hippie, il y a quand même eu un gros mouvement, une inclusion de sonorités indiennes, rien que dans la musique par exemple. On pense beaucoup à Ravi Shankar ou aux Beatles qui avaient intégré beaucoup de choses comme ça, parce que l'aspect aussi spirituel de l'Inde les avait pas mal marqués. Voilà, donc moi aussi, hein, c'est ces influences-là que je retrouve aussi un petit peu. C'est dans mon attrait, on va dire, à la culture indienne, c'est aussi toute la spiritualité qu'il y a autour, voilà. Bon, on n'en parle pas trop dans ce podcast parce que c'est pas le lieu pour en parler, mais on parle de choses plus culturelles comme ça, comme son aspect de médecine avec l'Ayurveda aujourd'hui. Et en musique, du coup, aujourd'hui, on va s'écouter, on va commencer cette émission avec un morceau de musique comme on a un peu l'habitude de faire. Ça va être un morceau du groupe Kula Shaker, un groupe anglais qui avait sorti un album en 96. Avec un titre qui avait fait un carton, le titre s'appelle Govinda. Et donc on va tout de suite, on va s'écouter ce titre-là, Govinda de Kula Shaker. Et voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Radio 666 et du magazine Ahimsa Non-Violence. On va continuer cette émission aujourd'hui avec notre invité du jour, Elodie Carceller, qui est avec nous ici par téléphone. Bonjour Elodie.
Bonjour.
Bienvenue sur les ondes de Radio 666. Alors... aujourd'hui, avec toi, on va discuter de médecine ayurvédique, parce que tu es praticienne, éducatrice de santé, et tu as été formée sur plusieurs aspects, on peut dire, c'est ça, de la médecine ayurvédique ?
Oui, exactement. Oui. En France et à l'étranger.
D'accord. Donc, tu t'es formée dans des écoles en France et à l'étranger. Tu t'es formée en Inde aussi un petit peu ou pas ?
Oui, en Inde aussi, au Kerala, exactement.
D'accord. Ouais. Et donc, toi, tu es spécialisée en phytothérapie, marmathérapie et thérapie corporelle, c'est bien ça ?
Exactement.
Et tu fais aussi un petit peu de bio-énergétique.
Oui, exactement.
Ok, donc voilà, c'est peut-être des mots, chers auditeurs, qui ne vous parlent pas trop, phytothérapie, marmathérapie, mais justement, avec Elodie, on va pouvoir, elle va nous expliquer tout ça, en fait, dans cette émission aujourd'hui. Voilà, alors, par quoi commencer, Elodie, un petit peu par une présentation peut-être de la médecine ayurvédique, un petit peu, d'où ça vient et qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on peut dire que c'est la plus vieille médecine du monde, par exemple ?
Oui, c'est la première médecine du monde, la médecine ayurvédique, hein, donc la médecine indienne. Le but de l'Ayurveda est de guérir, mais aussi de prévenir la maladie, de préserver la vie. L'Ayurveda, elle prend en compte le corps, l'âme et l'esprit. Mmh. La santé, ce n'est pas que l'absence de maladie, mais c'est aussi une relation entre l'émotionnel, le physique et l'intellectuel. L'environnement, les saisons, les climats, les comportements influencent sur notre santé et sur les personnes.
Mmh. C'est ce qu'on appelle aussi une médecine holistique, en fait, non ? C'est ça ? Quand ça va prendre en compte toutes ces différentes parties, aussi bien de notre environnement... Que par exemple l'influence des planètes aussi.
Exactement.
Un aspect.
L'Ayurveda considère que tous les microcosmes est à l'image du macrocosme, c'est-à-dire que l'être humain est donc le reflet de l'univers. En Ayurveda, nous trouvons dans les cinq éléments de la terre, du feu, de l'eau, de l'air et de l'éther dans l'univers, mais aussi dans notre corps humain. Et ces cinq éléments combinés créer ainsi ce que l'on appelle les trois doshas. Donc, je vais expliquer. Hein. Les trois doshas, Vata, Pitta, Kapha.
D'accord.
Donc ces doshas, en fait, c'est ce qui constitue la nature de tout organisme vivant. Les doshas, c'est trois énergies vitales ou humeurs qui sont responsables de notre physiologie et de notre psychologie. Et lorsqu'il y a un déséquilibre qui est en cause, alors cela va créer une maladie, une pathologie. S'il y a un des éléments de l'eau, de l'air, du feu, de la terre ou de l'éther qui est dominant ou plusieurs, à ce moment-là, ces énergies étant modifiées, il va y avoir un terrain qui va être davantage pour une maladie, pour une pathologie.
Ouais. C'est qu'en fait, chaque être humain, comme tu disais, est composé au niveau de moléculaire atomique. Voilà, on a tous des atomes qui forment des cellules, mais au sein de ces atomes, en fait, ils sont composés par ces cinq éléments. Donc, mais après, chez les hommes, on va retrouver une différente teinte un petit peu, c'est ça, de ces différents éléments qui vont constituer ensuite les doshas. Donc chaque individu va avoir un dosha légèrement différent.
Voilà, c'est exactement. Alors, il y a sept constitutions possibles. Il y a sept constitutions possibles. Donc, chaque personne est gouvernée par un ou deux doshas déterminants. Et parfois, mais c'est plus rare, trois doshas.
D'accord.
Ah, alors, Vata, c'est plus une personne qui est froide, légère, sec, rugueuse, mobile, qui est claire de peau, qui est irrégulière dans son état d'esprit. Quelqu'un qui est plutôt pitta, c'est quelqu'un qui est chaude, qui est légère, qui n'est pas très grosse, qui est plutôt mobile, qui aime bouger, qui est assez tranchante et pénétrante dans ses paroles. Et quelqu'un qui est kapha, c'est quelqu'un qui est plutôt froid, lourd, assez dense, lent dans ses gestes et ses mots, qui est assez grossier.
D'accord, donc ça c'est plus quand tu es composé pas mal d'éléments terre, j'imagine, par exemple terre et eau, non, c'est ça cette combinaison kapha?
Oui, alors kapha, ça va être effectivement la terre et l'eau. Pitta, ça va être plutôt le feu, le feu et l'eau également. Et vata, ça va plutôt être de l'air et de l'éther.
D'accord, ok. Et ensuite, tous ces différents éléments-là, on les parce que dans la médecine ayurvédique, il y a aussi toute une partie alimentation, c'est ça qui est importante, non? Alors peut-être que je vais un peu trop vite en voulant introduire ça. Tu avais peut-être d'autres éléments pour finir, je ne sais pas. Mais voilà, quand on va reconnaître une personne qui a plus cette physionomie-là, pitta ou kapha, etc., ça va aussi traduire un comportement, une personnalité particulière, c'est ça? Que toi, tu vas reconnaître en faisant une petite analyse, une entrevue médicale, c'est ça, avec la personne?
Exactement. Donc, l'éducatrice de santé, c'est son objectif, c'est-à-dire de déterminer que chaque individu a des tendances différentes, des forces ou des faiblesses différentes. Et lors des consultations ayurvédiques, autant les médecins que les éducateurs de santé vont déterminer justement ces différentes parts de vata, pitta ou kapha par l'analyse du pouls ou à l'aide de questionnaires.
D'accord. Ouais.
On peut aussi l'observer lorsque la personne elle rentre physiquement et dans sa manière de parler ou de gesticuler. Les doshas sont influencés également par l'âge, les horaires, le temps, les climats, la saison, les goûts, l'alimentation, l'hygiène de vie, les chocs, le stress, les émotions, les activités et l'environnement tout autour de nous.
Ça veut dire que ça nous fait changer de dosha, non?
Oui, exactement. Donc, à la longue, il se crée des déséquilibres, alors que nous avions une constitution de naissance.
D'accord, ok, ouais.
Qui aurait dû être écoutée et suivie.
Voilà, en fait, le but, c'est un petit peu de revenir toujours à cette condition de notre pitta de naissance, non, c'est ça?
Oui, donc, alors pour les personnes qui sont pitta, de revenir en fait vers leur élément naturel, pour les personnes qui sont vata également, et pour les personnes qui sont kapha également, pour éviter tout type de pathologie.
D'accord. Et donc, quels sont les outils que tu vas utiliser pour rétablir un petit peu cet état-là?
Alors, dans un premier temps, il s'agit donc de passer à peu près 1h30, 2h minimum avec la personne pour analyser, pour voir exactement ce qui a été en déséquilibre au cours de sa vie, par le moyen de questionnaires, par la palpation. Et puis, comme je disais tout à l'heure, le visuellement, déjà, on a déjà un premier aspect.
Mmh, ouais.
Et une fois que la consultation est faite sur toute cette analyse, l'analyse du pouls également, à ce moment-là, je vais mettre en pratique soit un bilan de santé pour rétablir finalement l'alimentation chez la personne. Donc, elle va avoir un régime approprié.
Mmh.
Soit on peut mettre également en place les plantes médicinales.
D'accord, ouais.
Donc, les plantes médicinales, il en existe beaucoup. Hein. Il existe les huiles essentielles, l'hydrolat, les télames,
ouais.
Qu'on appelle les plantes médicinales dans une huile végétale.
D'accord.
Les gritames, hein, qui sont les plantes médicinales dans une huile végétale, mais avec du lait, alors que les télames, c'est plus avec de l'eau.
Ouais, super. Ouais.
Les poudres, les comprimés, les gélules, les infusions, les décoctions, les teintures mères ou les pousses fraîches. Voilà, tout ce qu'on peut utiliser en phytothérapie.
D'accord. Donc ça, la phytothérapie, toi, c'est aussi un de tes axes forts un petit peu dans ta pratique. Et d'ailleurs, moi, ça m'intéresse beaucoup. J'avais déjà fait des émissions un peu sur ça, sur les plantes médicinales. Donc on va en parler pas mal dans cette émission aujourd'hui de phytothérapie, si tu veux bien.
Et puis l'autre accès, il s'agit de thérapie corporelle, puisque lorsque on s'occupe de rétablir le bilan de la personne sur le plan de l'alimentation, par moment, il est aussi obligatoire de faire ce que l'on appelle des massages. Donc c'est plutôt des massages thérapeutiques appropriés à chaque personne.
D'accord.
Voilà, c'est-à-dire que pour rétablir finalement la santé de chaque individu.
D'accord, ouais. Et il y avait un autre petit aspect de tes spécialités, c'était la marmathérapie, c'est ça?
Oui, exactement.
Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus du coup ce que c'est?
Oui, bien sûr. Alors, la thérapie des points marma du corps, elle est très importante en Ayurveda, puisqu'elle aide à maintenir la santé en nettoyant les énergies qui sont bloquées. Par définition, un point marma, c'est une jonction sur le corps où deux ou plusieurs types de tissus qui vont se rencontrer, tels que les muscles, les veines, les ligaments, les os, les articulations. Parmi les sciences cachées de l'Inde, la science des marmas, c'est la plus importante. Les marmas, ce ne sont pas des repères superficiels à la surface du corps, mais c'est des structures physio-anatomiques importantes et profondément ancrées. Beaucoup plus puissante que n'importe quel autre point d'acupression, d'acupuncture ou tapotement. La thérapie des marmas est basée sur 367 points dans le corps, qui sont considérés comme des points d'accès au corps, à l'esprit et à la conscience, qui aident au développement spirituel. La connaissance des marmas permet aux praticiens d'influencer le flux du prana, c'est-à-dire l'oxygène, à travers les corps bruts et les corps subtils dans le but de restaurer la santé et de permettre une meilleure tranquillité de l'esprit.
D'accord.
La thérapie des marmas, c'est une science qui a été préservée et associée en grande partie comme un soutien aux arts martiaux et à la guerre. Cette thérapie, maintenant, elle fait objet aujourd'hui de recherches depuis 1993 pour observer son efficacité sur le traitement des maladies physiques et mentales.
D'accord.
Donc finalement, cette thérapie, c'est un système originel de guérison du corps qui s'est répandu en dehors de l'Inde et qui a influencé le développement de l'acupuncture chinoise et le kung-fu.
Ah bah voilà, tu vois, c'est ça, ça me faisait beaucoup penser à ça en fait. J'allais te demander si en fait, quand les gens ils font des points d'acupuncture avec les aiguilles, est-ce que c'est aussi ça, c'est basé sur les marmas, c'est juste un autre nom dans la médecine chinoise, non, c'est ça du coup?
Alors, c'est pas exactement les mêmes points, mais effectivement, cette thérapie marma, on pourrait dire que c'est de l'acupuncture sans aiguille.
D'accord, ok.
Et voilà, donc c'est vraiment très très précis, hein, c'est au millimètre près qu'il faut, qu'il faut trouver les points, c'est-à-dire que si on passe à côté, voilà, il n'y aura pas l'efficacité qui sera là.
Mmh. Parce que, en fait, c'est ça, entre les médecines traditionnelles comme la médecine traditionnelle chinoise ou l'Ayurveda, on va retrouver un petit peu la même base, si tu veux, ça sera basé sur les cinq éléments, sauf qu'en médecine chinoise, les cinq éléments sont différents, il y a le bois, le métal dedans. Après, on va avoir du shiatsu aussi dans la médecine chinoise, non, qui sont un petit peu ces massages sur des points du corps, mais qui sont peut-être définies différemment que les marmas, en fait.
Disons que la première médecine était justement tout ce qui était marma, mais à l'époque, on n'écrivait pas, on mettait pas d'écrit. Donc, c'est les Chinois, finalement, qui ont récupéré des informations, mais ils n'ont pas pu tout récupérer, puisque tout ce qui s'est divulgué, ça a été surtout oralement. Mmh. Voilà, donc même encore aujourd'hui, c'est plutôt oralement. Il y a beaucoup de livres et d'écrits qui sont sur les marmas, mais beaucoup n'ont pas les vrais points, les bons points.
Mmh, d'accord.
Voilà, faut vraiment apprendre avec les vrais maîtres indiens.
Ouais, c'est ça, parce que en fait aussi toute cette médecine ayurvédique dont on parle, ça a plus de 5000 ans, quoi, en fait. Hein, c'est quelque chose de très ancien. On retrouve beaucoup, en fait, dans la culture indienne et la culture védique, finalement, des choses très très anciennes, aussi bien que ce soit des artefacts ou des civilisations que des archéologues vont découvrir, mais aussi des livres. Les livres les plus anciens du monde, je crois que ce sont les Védas, en fait. Mais oui. c'est pas facile de les conserver, parce qu'à l'époque, c'était écrit sur des feuilles de bambou. Ou sur des...
Exactement.
Voilà, donc c'est ça, en fait. Dis-toi, des choses de 5000 ans écrites sur du bambou, oh bah... c'est pas facile d'avoir les infos maintenant, quoi.
Voilà, exactement. Donc c'est vraiment, faut vraiment être avec des maîtres védiques qui nous apprennent. Mmh, mmh. Donc la marmathérapie, pour faire simple, elle permet d'aider physiquement, mentalement, pour avoir un aspect spirituel plus poussé. Au niveau cellulaire, elle permet une régénérescence des tissus pour un corps en bonne santé sur notre digestion, notre circulation et tous les systèmes du corps. Elle permet aussi de relâcher la tension nerveuse, les fonctions nerveuses. Elle permet de régler certains problèmes d'ordre psychosomatique, d'aider le système endocrinien qui est relié aux fonctions mentales. Pour le spirituel, ça permet de réguler les pensées et de les rendre encore plus positives, d'apporter une énergie positive. Pour les problèmes, tout ce qui va être problèmes cérébraux aussi, ça peut aider. La tension dans les muscles. Les problèmes orthopédiques, les hémiplégies, les paralysies en général. Mmh. Hein, quelqu'un qui est paralysé, voilà, si on appuie sur des points marma, on va le débloquer.
Ouais, ouais.
Et ça permet surtout de soulager immédiatement et d'augmenter la mobilité articulaire.
D'accord, ok.
Voilà, donc j'ai peut-être sans doute oublié des points, hein, mais voilà, c'est
non, mais ça
dans les grandes lignes.
Voilà, ça montre vraiment que ça a une action importante, en fait, sur l'aspect médical du corps, qui est peut-être un petit peu... laisser de côté de nos jours, non ? Heureusement qu'on a toujours certaines médecines traditionnelles comme ça, un petit peu pour garder ces aspects, parce que sinon, dans les hôpitaux, par exemple, on ne propose pas des massages souvent qui vont offrir ces choses-là. Quoi, donc,
voilà, alors, la marmathérapie, effectivement, ça peut être inclus aussi dans ce que l'on appelle les massages ayurvédiques.
D'accord. Ouais.
Voilà, donc en plus de faire le massage, par moment, voilà, on peut aussi inclure les points, hein, les points du corps.
D'accord. Donc c'est quoi ? Tu fais une pression sur ces points, c'est ça, non ?
Alors il y a une manière d'appuyer. On émet une intensité avec notre doigt. Hein, donc,
d'accord.
C'est, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est vraiment très précis. Soit ça peut être la pression du majeur, soit ça peut être le haut du majeur, le milieu du majeur ou le bas du majeur.
Ah ouais, d'accord.
Okay. Donc c'est assez précis.
Ah ouais. Bon, super.
Alors... Après il y a des contre-indications.
Oui.
Donc, pour toutes les personnes qui font des œdèmes, qui ont des varices, après les repas, des bleus, des blessures, tout ça, voilà, on pourra pas les prendre.
D'accord, ok. Bon, super. Bah, c'est bien, là, on a fait une bonne petite présentation un petit peu de tes activités. On va faire une petite pause, voilà, on fait souvent ça, comme ça, un petit peu de discussion, et on passe un morceau de musique. Donc là, on va s'écouter un petit morceau de musique, et on te reprend juste après pour continuer, Élodie.
Ben, merci, avec plaisir.
À tout de suite.
À tout de suite.
Et voilà, on continue notre émission d'aujourd'hui avec Élodie, une émission spécialisée où on met le focus un petit peu sur l'Ayurveda. Donc là, à l'instant, on vient de vous parler des différentes, une introduction de l'Ayurveda et de différentes techniques de soins qui sont utilisées dans cette médecine traditionnelle indienne. Et Élodie nous avait présenté un petit peu tout à l'heure la phytothérapie. Alors moi, j'ai adoré ce que tu nous as parlé de plein de possibilités. Et donc, si tu veux bien qu'on continue un petit peu plus de parler de ça, de phytothérapie, donc de médecine naturelle. Comment se soigner avec les plantes et comment la médecine ayurvédique voit le soin avec les plantes.
Alors, concernant les plantes...
Ça fait beaucoup de choses, peut-être.
Il n'y a pas de problème. concernant les plantes, il faut savoir que chaque plante a un potentiel énergétique. Donc, en Ayurveda, lorsque on regarde une plante pour pouvoir soigner une personne, on va regarder différents aspects énergétiques. Mmh. Dans un premier temps, on va regarder l'énergie de la plante. Alors, je vais donner 2-3 noms indiens, mais de toute façon, je vais expliquer derrière. L'énergie de la plante qui peut s'appeler rasa. Donc, on va observer le rasa de la plante, qui est la réaction à l'instant T. Finalement, qu'est-ce que la plante va pouvoir nous apporter tout de suite ? Mmh. On va regarder sa saveur, si elle est douce, amère, acide, salée, astringente ou piquante, ce que l'on appelle le rasa de la plante.
D'accord. Et en fait, ce rasa, c'est par exemple une plante, elle va pousser, elle va avoir différents stades dans sa croissance, non ? Et c'est qu'une plante va avoir une énergie différente au moment où elle en est dans sa croissance. Par exemple, quand c'est une jeune pousse, après quand elle commence à faire ses premières feuilles, ou après quand elle va être en floraison, elle va avoir... son rasa va changer, c'est ça en fait ?
Oui. Alors, le rasa, c'est vraiment le... alors, faut que j'explique peut-être un peu plus. Ouais. Par exemple, le rasa, c'est vraiment, ça peut être le goût de la plante. Est-ce que finalement elle est douce? Est-ce qu'elle est plutôt d'ordre piquante? Ou est-ce qu'elle est plutôt acide lorsqu'on la mange? Voilà, c'est plutôt à ce niveau-là, en fait, qu'on observe le rasa de la plante.
D'accord.
Donc, le rasa, pour donner un petit peu plus, peut-être, de détails, c'est une saveur, une substance qui est perçue par les capteurs de la langue. Elle est analysée par le cerveau afin de libérer des enzymes digestives qui vont être nécessaires pour la première étape de la digestion. Mmh. Cette saveur absorbée par la bouche, une fois qu'elle est faite, l'action est immédiate. Elle va descendre dans l'estomac. Et puis, une fois que ça va passer dans la barrière de l'estomac, il va se passer dans l'instant T un premier effet de digestion. Mmh. Donc le rasa est ensuite digéré par le corps. Et c'est là, en fait, où on parle des effets de la saveur du corps.
Mmh, d'accord, ouais.
Est-ce que ça va pour l'explication ?
Ouais, ça va, ouais. Ah. Donc là, c'est quand on utilise les plantes fraîches, en fait. C'est ça, qu'on va prendre une plante fraîche et tac, on va la manger directement. Mais tout à l'heure, tu nous parlais, il y a aussi d'autres manières d'utiliser les plantes, c'est ça ? Avec différents excipients, en fait, c'est ça ? On va extraire les propriétés des plantes dans du lait ou de l'eau, par exemple ?
Oui, c'est ce que l'on appelle les anupanas. En fait, il faut savoir qu'il y a des plantes qui vont être plus efficaces si l'on ajoute du lait ou si on ajoute de l'eau ou d'autres liquides.
D'accord. Comme par exemple, il y a cette recette connue, le lait d'or, non ? Où on met du curcuma dans du lait.
Oui, par exemple, où effectivement, ça sera plus puissant que si on mettait rien du tout, par exemple, si on mettait juste la plante.
D'accord. Mmh.
Donc là, en fait, il faut savoir que les plantes ont vraiment un potentiel énergétique. Donc il y a plusieurs aspects que l'on regarde. Donc le rasa, qui est la réaction tout de suite, à l'instant T. Le vipaka, c'est-à-dire une réaction qui est à plus long terme. Il y a plusieurs aspects en médecine indienne. Le vipaka, c'est une réaction qui va agir sur les tissus, sur le système corporel, mais à plus long terme. Le prabhava, c'est ce qui nous permet de connaître les bienfaits de la plante. Le virya et le vipaka. Alors, virya, vipaka, en fait, tout simplement, pour faire simple, c'est avant digestion, après digestion. Mmh. On va regarder comment se comporte la plante avant la digestion, après la digestion. C'est vraiment les grands aspects à regarder. Et puis, il va falloir aussi savoir, finalement, la constitution de la personne, comme on l'expliquait tout à l'heure, et le déséquilibre de la personne pour savoir l'adapter pour la plante.
Mmh. D'accord.
Ça va pour les...
Mmh. Oui, c'est ça, en fait, c'est aussi toujours de cibler, en fait, de pas donner... Il n'y a pas vraiment un remède qui va marcher pour tout le monde, mais c'est à chaque fois très personnalisé, en fait, oui. les plantes que tu vas apporter.
Voilà, donc c'est des grandes règles d'or, en fait, à suivre, pour pouvoir après faire des formules de plusieurs plantes. Donc, comme t'expliquais à l'instant, les anupanas, c'est un véhicule qui permet de consommer la plante en fonction du corps pour assimiler davantage les plantes. Mmh. Le choix des plantes va se faire en fonction pour traiter des problèmes. Tout dépend de ce que va avoir comme problème la personne. Donc, on va regarder les systèmes, on va regarder les tissus de la personne, on va regarder ses organes. On va observer, voir si elle élimine correctement.
Ouais.
On va voir aussi s'il n'y a pas trop de toxines dans le corps, hein, puisque sinon ça va être les toxines du corps qui vont se nourrir finalement des plantes.
Mmh, mmh.
Donc tout ça, c'est des éléments qui sont importants. Et puis on va regarder aussi ce que l'on appelle OJAS, c'est-à-dire la personne, voir si elle a suffisamment de force pour pouvoir accepter la plante.
D'accord.
Parce que si c'est une personne qui est faible nerveusement et qu'on lui donne une plante qui est pour les nerfs mais qui est trop forte pour elle et pas adaptée, à ce moment-là, ça peut créer des désordres.
Ouais, c'est ça. C'est que certaines plantes, par exemple, vont avoir aussi un dosha qui va être particulier, donc qui va avoir une emphase. Et tu vas pas donner une plante qui a un dosha pitta à quelqu'un qui a déjà un excès de pitta, par exemple, non ?
Oui, exactement.
C'est comme ça que tu vois.
Exactement. Et puis après, bah, y a toute une formule de plantes aussi à pouvoir, pour pouvoir équilibrer si, par exemple, dans une des plantes, il y aurait trop de feu et que la personne est déjà feu.
Mmh.
Voilà.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on n'élimine pas les plantes, mais on les associe entre elles pour aussi pouvoir, malgré tout, les utiliser.
D'accord, en équilibrant comme ça le remède, je comprends. Ouais. Mmh.
Voilà. Et il y a quelque chose qui est très important aussi en Ayurveda, c'est le moment de la prise des plantes.
Ah oui. Mmh.
Quand on commence un protocole, on prend une plante, puis les autres, pour voir quelle est la plante finalement qui pourrait avoir des effets contraires. Au début, on commence par un dosage qui est assez faible et puis on augmente le dosage,
mmh,
suivant les réactions du corps de la personne.
Mmh, mmh.
Avant les repas, c'est-à-dire à distance d'environ 15-20 minutes avant le repas, on va plutôt agir sur les fonctions de la digestion, qu'on appelle en médecine indienne Samanavayu, Apanavayu.
Ouais.
Entre les repas, donc de préférence à distance d'1h30 en dehors de la digestion, matin et soir, pour le système nerveux, au lever et au moment du coucher. Là, on va agir plutôt sur l'estomac et l'intestin grêle, mais ça ne travaillera pas forcément sur le foie.
Mmh, d'accord.
Malgré tout, ça agira sur les 7 tissus du corps.
Mmh. Donc voilà, si tu veux avoir une action spécifique, il faut aussi dire à la personne, prenez la médecine à telle heure, par exemple.
Exactement.
Ouais. D'accord.
Après les repas, c'est à distance d'environ 15 à 20 minutes après les repas, ça va plutôt avoir une action sur les troubles articulaires et menstruels.
Mmh.
Et également sur tout ce qui va être sphère ORL, poumon et cœur. Par contre, il y a une indication qui est importante en médecine ayurvédique, c'est qu'on ne donne pas de plantes à une femme qui serait en état de grossesse, enceinte.
D'accord, ouais, ok. Est-ce que toi, tu fais ça aussi, préparer des remèdes comme ça c'est un aspect de ta pratique, en fait, qu'une personne vient et tu lui apportes toute une recette de plantes?
Alors, je l'ai fait pendant très longtemps, j'avoue, vu que j'ai d'autres pratiques en plus, j'ai moins le temps.
D'accord.
Mais si vraiment c'est nécessaire, oui, je suis amenée à le faire, il n'y a pas de problème.
Mmh.
Sachant que on n'y mettra pas le même dosage pour chaque personne.
Ouais, d'accord.
Quelqu'un qui va être vata, le dosage va être entre 4 à 6 grammes. Quelqu'un qui va être pitta, c'est entre 6 et 8 grammes. Et kapha, c'est entre 8 et 10 grammes.
D'accord. Et tu travailles avec des plantes, du coup, qui viennent d'Inde ? Principalement, ce sont des plantes qui viennent de là-bas, ou tu peux avoir par exemple des plantes aussi qui vont des variétés qui ont été importées et qui poussent en France. Est-ce qu'on peut avoir dans notre jardin des plantes ayurvédiques, par exemple?
Alors oui, je travaille principalement avec les plantes indiennes parce que effectivement c'est là où on a encore le plus de connaissances sur les plantes. C'est très très précis.
Mmh.
Mais après, il m'arrive, étant donné que je suis aussi phytothérapeute en Europe, il m'arrive aussi voilà, de faire des préparations sur les plantes françaises.
D'accord, ouais. Mmh. C'est ça qui m'aurait été de voir un petit peu si on pouvait aussi, si ça pouvait s'adapter un peu plus avec ce qu'on trouve dans notre environnement, quoi.
Oui, tout à fait. Alors parfois, j'ai des personnes qui me disent « Oui, mais vu que c'est des plantes d'Inde, ça va peut-être pas fonctionner. » Ben en fait, c'est faux. Hein. C'est vraiment... faut savoir que même les plantes indiennes, elles ont un fort potentiel. Et elles agissent aussi sur le corps des personnes qui sont en France.
Bah ouais, ouais, c'est ça. Non, non, y a
voilà, peu
de...
importe où on habite.
Ouais, ouais, y a plein de plantes qui viennent de partout dans le monde, qui ont des fortes, une forte potentialité quoi, de guérison. On a aussi nos plantes françaises hein, qui en ont. On a
exactement.
Des trucs très très forts hein, ici aussi en France, comme je sais pas, la gentiane par exemple, qui est une plante très recherchée, qui va pousser que ici en France. Quoi.
Oui. En médecine ayurvédique, ils prennent maintenant aussi en considération les épices françaises et puis les plantes françaises.
D'accord, ah ouais, super.
Donc on peut aussi maintenant aujourd'hui trouver effectivement de nombreuses informations avec des détails sur les plantes françaises.
Mmh, d'accord, ouais. Alors où est-ce qu'on peut avoir ces informations? Par exemple, c'est certaines écoles d'Ayurveda qui vont faire ça. Et puis aussi, une autre question que j'aurais, c'est est-ce que tu aurais des bibliographies, par exemple, à nous recommander?
Des, j'ai pas entendu.
Une bibliographie, certains livres.
Ah oui, bibliographie, d'accord. Oui, il y a le Dravyaguna pour les Occidentaux, qui est écrit par les Védias, d'Atreya Smith, qui est très bien.
Atreya Smith, c'est ça.
Oui, ouais. Oui, mm-hmm. oui, qui est très bien. Ouais. Ou le guide ayurvédique de phytothérapie du docteur David Frélé.
Ouais.
Ou du docteur Vincent Clade. Voilà, je le dis, ça c'est pour des fois des personnes qui comprendraient pas l'anglais. Mm-hmm. C'est écrit en français, donc ils sont très très bien expliqués.
C'est ça, ouais, ce livre là de David Frélé, ouais. On le retrouve, c'est un livre qui a été publié dans les années 70. Hein. On le trouve assez facilement sur Internet d'occasion. Moi, j'ai trouvé la version PDF. Mmh. Voilà, si ça intéresse des gens. Et justement, dedans, il référence différentes plantes, hein, c'est ça. Ouais. Peut-être même, oui. Je ne sais plus s'il y avait des plantes comme le pissenlit, par exemple, dedans ou pas, je ne sais plus.
Il ne me semble pas, mais effectivement, il va y avoir même des formules de plantes.
Ouais.
Qui sont assez intéressantes sur de mémoire, hein, voilà, des formules de plantes, par exemple pour les gens qui souffreraient d'insomnie. Alors le seul problème aujourd'hui, c'est de pouvoir vraiment trouver toutes les plantes, et c'est peut-être un petit peu complexe pour les gens qui n'auraient jamais fait d'école ayurvédique.
Bah ouais, c'est ça. Ouais. Même si avec Internet, on peut trouver pas mal de choses. Après, il faut faire attention. L'automédication, c'est un truc aussi où il faut faire attention, quoi. Nous, c'est pas,
oui, oui. C'est et à la qualité, au potentiel des plantes aussi, qui n'est pas la même partout. Donc parce que sur Internet, on peut trouver de tout et n'importe quoi, effectivement.
Voilà, des choses relatées qui ont eu des années de stockage et qui n'ont plus trop de propriétés, quoi.
Exactement, exactement. Donc. Voilà, il faut quand même être prudent quand on achète des livres. C'est vraiment pour des connaissances, mais après, éviter de faire les formules soi-même quand on ne connaît pas.
Ouais, ouais, ouais. Super. Bon, on refait une petite pause musicale et puis on continue avec toi, Elodie.
Pas de problème, merci. Okay.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio 666. On va faire notre dernière petite session de discussion avec Elodie autour de la médecine naturelle et médecine ayurvédique. Donc, tu nous as parlé beaucoup des plantes. Voilà, tout à l'heure, on avait vu pas mal aussi une introduction à l'Ayurveda et la marmathérapie. Est-ce qu'il y aurait un autre élément que tu souhaiterais nous partager un petit peu, Elodie, pour parler de la médecine ayurvédique qui te semblerait important?
Peut-être l'aspect, je dirais, de la thérapie corporelle.
D'accord. Donc, ce qui est différent, ouais. Ouais, c'est le massage un petit peu, c'est ça ce que tu
voilà,
veux dire?
Voilà, les massages.
Ok. Donc ça va être beaucoup, alors je crois que c'est des massages où on utilise beaucoup d'huile, non? C'est ça moi, l'image que j'ai dans des massages.
Voilà, exactement. Alors souvent, en fait, on utilise des huiles avec entre 100 et 320 plantes à l'intérieur, wow. Hein, qui sont déjà prêtes par des personnes hein, qui fabriquent les plantes. On peut les faire aussi également nous-mêmes. Hein. On peut préparer les huiles, hein. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Hein. Donc la thérapeute corporelle, souvent, elle n'a pas le temps de tout préparer. Mmh. Et ces huiles, une fois qu'elles sont préparées, ça met à peu près 6 mois de temps de préparation. Une fois qu'elles sont prêtes, on peut enfin l'appliquer sur chaque individu. Donc, tout dépend. Si, par exemple, c'est une personne qui a le cancer, il est préférable d'éviter d'appliquer les plantes médicinales sur les 5 années derrière le cancer.
Ah ouais, d'accord.
Sinon, on va réactiver les cellules cancéreuses.
Mmh, d'accord.
Néanmoins, si c'est quelqu'un qui, par exemple, est faible, qui est menu, qui a la peau sèche, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir apporter et nourrir le corps de la peau.
Mmh, ok.
Par des huiles médicinales.
D'accord.
Par contre, si c'est quelqu'un qui est assez fort, qui est en surpoids, et il est également préférable de ne pas mettre trop d'huile, sinon on va alourdir le corps. On va empêcher la circulation du sang de s'effectuer correctement.
D'accord. Et donc ces massages, ils ont une visée un petit peu à retonifier l'organisme, à aider la circulation de la lymphe, des choses comme ça, hein ?
Exactement. Ils vont relancer l'énergie du corps. Ils vont permettre à chaque fois, en fonction de ce qui est nécessaire et en fonction de chaque thérapie de massage, on va avoir différentes vertus. Donc soit ça va agir sur les tissus, soit ça va agir sur le système nerveux, mmh. ou sur le système nerveux et sur les tissus mmh. du corps.
D'accord.
Ça peut avoir plusieurs propriétés.
Ok, bon, ben merci. Et il y avait un autre petit aspect aussi de ta pratique. Bon, là, voilà, on va devoir conclure notre entretien. Moi, j'aurais voulu parler de plus de choses avec toi, mais c'est vrai que c'est passé très vite. Peut-être juste pour terminer, tu as aussi cette... on aurait pu parler un petit peu de bioénergie avec toi, parce que tu fais aussi de la thérapie avec des aimants. Et puis aussi, tu utilises pas mal, c'est le plasma marin ou le sérum de Quinton, c'est ça ?
Oui, exactement. Mmh. Alors, donc en quelques mots, la bioénergétique, hein, c'est une thérapie naturelle, non invasive, indolore. Elle permet de diagnostiquer, de soulager un grand nombre de pathologies grâce à l'utilisation d'aimants, qui permet de rééquilibrer le pH sanguin de l'organisme, mais pas seulement, aussi tous les tissus du corps. Mmh. La bioénergétique part du principe que si l'on stresse, qu'on a des traumatismes dans notre vie ou des dérèglements, ceci modifie le pH sanguin et certains tissus. Et à ce moment-là, notre immunité réduirait.
C'est ça.
La circulation des énergies étant donc moins harmonieuse. Cette thérapie provient du docteur Goïs. Mmh. C'est lui qui a redécouvert ça, puisque du temps de l'Antiquité, les aimants étaient déjà pratiqués et utilisés. Mmh, mmh. Donc ces aimants-là permettent de réparer le sommeil, hein, d'améliorer la mémoire et la concentration, d'améliorer le stress, les émotions, va agir sur tout le plan physique, va rééquilibrer les énergies et réguler le système digestif. Mmh. En ayant plus d'énergie dans notre corps, effectivement, il y a une amélioration qui se fait. Mmh.
Oui, et en fait, c'est ça, à l'intérieur de ces aimants vont aider à rétablir un pH au niveau des cellules de nos corps et de notre sang, tu disais, ouais. Oui. Et c'est un petit peu aussi cette même action que va avoir le sérum de Quinton ou plasma marin, non ? C'est quelque chose aussi qui vient aider en buvant ça, à apporter plus de... alcaliniser en fait le pH du corps, c'est ça, non ?
Exactement, puisque notre composition dans le corps, hein, on a ce que l'on appelle du liquide extracellulaire, le plasma marin, qui est finalement l'eau de mer, mmh. est extrêmement semblable.
Mmh. Ouais.
L'eau de mer a une concentration de sel de 35 grammes par litre, alors que notre corps humain est de 9 grammes par litre. Donc en fait, il faut la diluer.
D'accord.
Mmh. Et en la diluant, effectivement, on permet de reminéraliser le corps, chose que la bioénergétique ou l'Ayurveda, par exemple, ne peut pas faire.
Mmh.
Voilà, donc mmh. c'est vraiment un complément.
Mmh. Souvent, les gens ont des carences en minéraux, parce qu'on va avoir beaucoup une alimentation avec beaucoup de sucre, en fait. On va manquer d'activité, et tout ça a tendance un petit peu à générer de l'acidité dans nos cellules. Et cette acidité, on la réduit en amenant des éléments basiques. Hein. C'est les équilibres de pH qu'on voit en physique au collège, quoi. C'est un petit peu sur ça que ça joue, en fait, non ?
Oui, alors, il faut savoir que ces minéraux-là qui sont dans l'eau de Quinton sont déjà chélatés. Donc, ces ions, ils sont liés à une molécule organique qui va traverser la membrane intestinale sans difficulté. Donc, ils vont être biodisponibles. Et ils vont nous apporter finalement des nutriments, des oligo-éléments dans notre corps.
Mmh.
Donc ils vont être 100% assimilables. Effectivement, aujourd'hui, l'alimentation que l'on utilise est quand même pauvre.
Ouais.
Donc petit à petit, on va avoir de plus en plus de carences et notre corps va être dénutri.
Mmh, mmh.
Et de là va émerger un grand nombre de pathologies.
C'est ça, un système immunitaire un petit peu affaibli, quoi, en fait. Donc,
voilà, finalement, peu importe la thérapie qu'on utilise, l'objectif, c'est d'améliorer le système immunitaire. Mmh. En fonction de chaque personne, effectivement, l'Ayurveda, ça va être beaucoup plus calme. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui va être âgé, ça va plutôt être l'Ayurveda. Pour la bioénergétique, l'avantage, c'est qu'effectivement, ça va être un petit peu plus fort, ça va permettre de détoxifier le corps. Et puis pour l'autre quinton, ça va détoxifier, mais ça va aussi nourrir le corps.
D'accord, super.
Voilà, donc on a trois aspects.
Bon, génial, on a fait un petit peu le tour. Alors, on a vraiment exploré, on aurait pu parler pendant beaucoup plus. Moi, j'aurais eu plein de questions à te poser aussi, mais voilà, le temps un petit peu est contre nous. si tu veux, on termine, Elodie, en indiquant un petit peu si les gens veulent te rencontrer, comment ils peuvent faire s'ils veulent travailler avec toi. Alors, j'ai pas présenté en début d'émission, mais toi, tu es vers entre Dijon et Nancy, hein, c'est ça?
Oui, exactement. Alors, pour la localisation précise, je suis à Mézières-sur-Amance, à côté de Mézières-sur-Amance, qui est entre Orthe et Mézières pour les personnes qui habitent de Langres. Mmh. Et puis, Dijon et Nancy, oui, c'est très bien pour indiquer. Donc, pour pouvoir me joindre, ils peuvent le faire sur mon numéro de téléphone. J'ai un site vitrine, hein, qui est un site internet qui s'appelle floresanté.fr. Mmh.
Donc ça s'écrit Flore, F-L-O-R-E, tiré du 6, et oui. E-E-T, tiré du 6, santé.fr.
Exactement.
Est-ce que tu peux donner ton numéro de téléphone à l'antenne ou peut-être...
Oui, bien sûr. C'est le 07 85 08 62 19.
Okay.
Voilà, pour les personnes qui seraient un petit peu plus loin, il n'y a aucun problème. Voilà, ça m'arrive des fois de consulter aussi également des gens qui viennent de loin.
Super, je te remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a une petite chose que tu souhaiterais ajouter avant qu'on se quitte ?
Eh bien, un grand merci pour cet accueil. Et c'est un plaisir de pouvoir partager avec vous toutes ces connaissances.
Merci beaucoup à toi, Elodie. Je te souhaite une très bonne continuation. Et merci d'avoir répondu à l'interview. À bientôt.
À bientôt.